Europe 1,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans votre émission Bien fait pour vous. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à midi. Alors ce matin sur Europe 1, nous allons nous poser cette question. Quels sont les secrets des génies? J'entends par là des Léonard de Vinci, Einstein ou même Marie Curie. Ces génies nous ont toujours fascinés. Mais sait-on vraiment ce qui se passe dans leur esprit brillant? Qu'est-ce qui les caractérise? On ira même voir ce qu'il en est du côté de leur santé mentale. Cet éclairage, on le fera aujourd'hui avec deux experts. Le docteur Patrick Lemoine, psychiatre et docteur en neurosciences, ainsi que José de Valverde, il est psychologue spécialisé dans le haut potentiel. Ensuite, comme tous les jours à 11h45, ce sera notre séquence tendance avec nos deux chroniqueurs. Aujourd'hui, le duo sera composé tout d'abord de notre expert déco, Vincent Busset. Il va nous proposer un focus sur les plantes vertes en intérieur. Comment bien les choisir ou les installer pour en faire de vrais éléments de déco? Il va tout nous expliquer. Et puis, pour terminer cette émission dans la gourmandise, c'est Sophie Menu qui se mettra au fourneau. Elle va nous rafraîchir avec sa recette de gazpacho à la portée de tous et donc à reproduire chez vous de toute urgence. Voilà, bien fait pour vous. C'est parti.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1, bienvenue dans votre émission Bien-être Feel Good. Je vous rappelle notre question du jour, quels sont les secrets des génies? Alors quand je dis génie, je pense par exemple à Picasso, Einstein, Steve Jobs, mais dans un autre genre, on pourrait peut-être aussi citer Clément Lanoux. Bonjour Clément.
Bonjour Mélanie, bonjour tout le monde.
Je suis sûre hein, que vous avez un quotient intellectuel hors norme, vous non? Je le sens.
Alors je ne l'ai jamais calculé, mais maintenant que vous le dites, j'ai énormément de points communs avec Einstein, avec Steve Jobs, avec Émile Zola. Le premier, j'ai loupé mon bac. Voilà, est-ce que ça fait de moi un génie? Je ne sais pas. Ensuite, j'ai un style un peu négligé, donc peut-être. Après, j'aime vous le faire croire. Après, c'est très subjectif, hein, la notion de génie. C'est ce qu'on abordera d'ailleurs aujourd'hui. Parce que si vous prenez un professeur des écoles et que vous lui dites dans votre classe de 30 élèves, combien il y a de génies? Il va vous dire, bon allez, 0, peut-être 1 si on est vraiment bien tombé. Mais si vous faites le même sondage sur la classe en demandant aux parents si leur enfant a des capacités hors normes, là, vous allez obtenir un score de 29 sur 30, je pense. Je vous pose la question, Mélanie, est-ce que vos enfants sont un peu meilleurs que la moyenne? Est-ce que c'est des petits génies?
Évidemment, évidemment.
Ouais. Donc voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas la même définition du génie. Et ça change tout au long de sa vie. Démonstration. Par exemple, si on interroge un enfant de 10 ans, pour toi, c'est quoi un génie? Il va nous dire, bah, c'est un bonhomme bleu qui sort quand on frotte une lampe pour réaliser des vœux.
Qu'est-ce que tu veux plus que tout au monde?
Si on demande à un enfant de 15 ans ce que c'est qu'un génie, c'est probablement celui qui a réussi sans forcer à avoir la plus belle fille du collège dans ses bras. À 20 ans, c'est celui qui arrive à gagner de l'argent en faisant des vidéos sur TikTok et qui gagne peut-être plus que ses parents. À 25 ans, les génies, c'est des gars qui courent derrière des ballons pendant que toi, tu galères à faire tes études et à rentrer dans la vie active. À 30 ans, un génie, et j'en connais beaucoup, c'est un homme qui arrive à plier une poussette, changer des couches et faire croire à sa chérie qu'il n'avait pas entendu que le bébé pleurait à 2h du mat. À 35 ans, un génie, c'est celui qui a écrit plus de livres qu'on en lira dans toute notre vie. Donc là, on tombe sur des Victor Hugo, des Émile Zola. Et puis, à 40 ans, c'est quoi un génie? Bon, on va stopper tout de suite. Je ne vais pas vous mentir, Mélanie.
Ouais.
Si à 40 ans, on ne vous a pas décelé du génie, partez sur un autre projet. Voilà, je suis désolé. On y arrive bientôt, il nous reste très peu de temps, Mélanie, pour devenir
39,
des génies.
Oui, oui, oui.
Et, oui, et puis, je vais rajouter quand même tout le monde, rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec les QI, les diplômes. Pour moi, les vrais génies, c'est ceux qui savent rendre le monde meilleur et c'est ce que vous faites tous les jours, Mélanie.
Oh, mais qu'il est gentil, ce Clément Lanoux. Merci beaucoup, Clément, pour cette intro. On va se lancer à présent dans notre enquête encore plus poussée sur ce qui fait fondamentalement les génies avec nos experts. Alors, autour de la table, il y a déjà vous, docteur Patrick Lemoine, bonjour.
Bonjour, Mélanie.
Vous êtes psychiatre, docteur en neurosciences et l'auteur du livre « La santé psychique des génies » paru aux éditions Odile Jacob. Avec nous également, il y a José de Valverde, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue spécialisé dans le haut potentiel et l'auteur du livre « Les secrets des génies » qui est paru, lui, aux éditions Humaine Science.
Avec Todd Lubart.
Allez, bien sûr, c'est important. Alors José, finalement, justement, on va voir les choses en détail. Vous dites, vous, par exemple, que leur point commun, c'est la créativité à Steve Jobs, Marie Curie, Coco Chanel. C'est donc ça, ben en tout cas, une des définitions des génies?
Alors, bien sûr, la créativité, elle est incontournable. Chez tous ces gens-là, on trouve cette créativité exceptionnelle, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'en fait, si on voit les choses de près, il ne suffit pas d'avoir un potentiel créatif. Encore une fois, il faut l'accomplir. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Sinon, on aurait effectivement plein de gens qui feraient des choses merveilleuses. Mais non, le génie, il est exceptionnel parce que c'est un cocktail extrêmement complexe de différents facteurs qui se combinent à un moment donné, à un endroit donné. Et ça donne ce qu'on a pu observer chez les Einstein, Marie Curie et tant d'autres. Donc, la définition du génie, de toute façon, on peut de façon consensuelle, dire que ce sont des gens qui ont trois caractéristiques. C'est d'abord cette aptitude, des aptitudes exceptionnelles, bien sûr, mais pas seulement. Il faut encore qu'elles aient envie de les accomplir, qu'elles choisissent d'accomplir, qu'elles puissent l'accomplir, et puis qu'elles soient reconnues. La troisième chose, c'est être reconnues par des experts, par un environnement qui dit oui, effectivement, c'est nouveau.
Donc ça n'a pas forcément rapport, par exemple, avec le quotient intellectuel, le fait d'être défini un génie.
Alors, effectivement, il faut comprendre qu'en fait, on a des génies qui sont très créatifs, qui ne sont pas forcément des gens qui ont des QI exceptionnels. Ça, c'est une réalité, je pense que Patrick pourra nous en parler. On a effectivement des gens qui n'étaient pas forcément de bons élèves et qui sont pourtant devenus de grands génies. Ça, c'est très important de le constater parce que, je me permets de le rappeler, dans l'esprit, dans les représentations du génie, circulent des représentations erronées, où on voit toujours les mêmes, d'ailleurs, ces génies de mathématiques, bon, en artistique aussi. Et on a toujours tendance à considérer que ça y est, ils sont tous avec ces QI prodigieux, mais non. Mmh. Non, non. Et souvent, on a des mauvais élèves, il faut le rappeler. Voilà.
Ça, c'est important, effectivement. Ouais. Docteur Patrick Lemoine, quand on parle de génie, on emploie souvent aussi le terme qui va régulièrement avec, le terme de savant fou. Est-ce que la plupart des génies, Einstein, Picasso, Mozart, avaient bel et bien un grain, comme on dit ?
Oui, il y en a un bon nombre qui étaient un peu starvés, effectivement. En revanche, vous avez des génies qui sont strictement, presque pathologiquement normaux.
Ah oui.
Prenez par exemple Jean-Sébastien Bach, bon père de famille, bon mari, fonctionnaire de la musique, qui n'a jamais cherché à faire carrière, plutôt dans des postes de seconde zone. Un homme, je dis, hyper normal, et quand même, avec Mozart et Beethoven, sûrement un des trois plus grands génies de la musique de tous les temps.
D'ailleurs, il y a peut-être un lien entre la folie et le génie. Vous écrivez que les personnes qui appartiennent, par exemple, à la tribu des prix Nobel sont plus souvent atteintes par le trouble bipolaire, par exemple. C'est vraiment lié ? Comment on explique ça ?
Alors, clairement, maintenant, c'est bien répertorié. Les maniaco-dépressifs, que maintenant on appelle bipolaires, sont des gens qui, génétiquement, ont effectivement en moyenne une plus grande intelligence. J'en ai rencontré des complètement cons, faut pas oublier. Et puis, que globalement, il y a effectivement plus de gens dans les métiers de créativité. Et en effet, chez les prix Nobel, chez les grands prix littéraires, ça n'a pas été fait chez les artistes, mais c'est probablement la même chose.
Oui.
Si vous êtes bipolaire, youpi, vous avez des chances d'être un génie.
Ça, c'est chouette, effectivement. José, on sait, grâce à la science, que certaines parties de notre cerveau sont impliquées donc, dans la créativité dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que cette partie du cerveau, pour le coup, donc chez les génies, elle serait plus développée ou pas ?
Non, ça, c'est une question un peu complexe. Pour faire simple, on sait de toute façon que la neuroimagerie montre que le cortex frontal, préfrontal, a une importance capital dans la créativité. C'est-à-dire cette région du cerveau.
C'est à l'avant du cerveau, non
voilà,
c'est ça. Hein
elle commande. Enfin, elle est plus développée chez l'être humain, bien sûr, que chez n'importe quelle autre espèce. Mais elle commande effectivement. Elle nous permet de nous adapter à nos objectifs. Elle est en lien avec d'autres parties du cerveau et elle nous permet d'avoir effectivement des liens avec les autres parties. Ce cortex préfrontal, il est à l'œuvre dans le processus créatif. Il contrôle beaucoup de comportements et beaucoup de régions cérébrales. Donc, le système sensoriel, le système mnésique, le système limbique. Ça, on le sait. Après, le cerveau des génies, c'est un vaste domaine. Je pense que Patrick...
Et justement, oui, docteur Lemoine, voilà. Je crois qu'on a regardé, hein, en particulier dans le cerveau d'Albert Einstein. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'avait pas un cerveau comme les autres, hein, je crois.
En plus, il y aurait de quoi dire, parce qu'avant de mourir, il avait dit « Je ne veux pas qu'on dissèque mon cerveau ». Et du coup, quelqu'un a fauché son cerveau et ses yeux.
Sans son consentement en plus.
Ah bah, contre son consentement, à l'opposé de son consentement, ce qui est un peu différent que sans.
Et alors qu'est-ce qu'il avait
donc,
ce cerveau ?
Ils ont trouvé un truc étonnant, c'est que les connexions entre le cerveau droit et le cerveau gauche étaient plus développées que la moyenne. Et selon ma théorie, pour être génial, il faut effectivement accepter d'avoir des moments de folie, comme vous, comme José, comme moi, toutes les nuits, 4 à 5 fois pendant 20 minutes, c'est-à-dire on est complètement fou, puisque on a des hallucinations, des scénarios improbables, et qu'on y croit dur comme fer. Donc quand on rêve, bah effectivement, on est fou. Or, le rêve, comme l'a dit Freud, c'est un moment où l'inconscient, ou les réseaux affectifs neuronaux, ou le monde des esprits, si on est chaman sibérien, communique avec le cerveau rationnel, cartésien, raisonnable, etc. Or, le génie, c'est celui qui fait communiquer très facilement ce cerveau enfantin, ce cerveau du rêveur, avec leur cerveau, et qui permet, comme l'a dit José, de mettre ça en musique. Et ça, apparemment, ça connectait bien entre l'inconscient et le conscient chez Einstein.
Bon, on va voir si on peut connecter aussi nous, nos deux cerveaux en musique dans un instant. Merci à tous les deux, vous restez avec nous et vous aussi, restez bien à l'écoute d'Europe 1 car dans Bien fait pour vous ce matin, on vous explique concrètement ce qui caractérise les génies les plus célèbres. D'ailleurs, est-ce que tous les enfants qui sont aujourd'hui diagnostiqués au potentiel, par exemple, sont potentiellement des génies en devenir? On vous dit tout dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good, Mieux Vivre. Ce matin, on se pose cette question, quels sont les secrets des génies? On fait le point sur le sujet avec le docteur Patrick Lemoine, psychiatre et docteur en neurosciences. Il est également l'auteur du livre La santé psychique des génies chez Odile Jacob. Et avec nous également, José de Valverde, psychologue spécialisé dans le haut potentiel et auteur du livre Les secrets des génies aux éditions Humaine Science. Alors José, dans votre livre, vous prenez l'exemple de Picasso et vous dites que ce qui fait aussi un génie, c'est sa flexibilité intellectuelle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Écoutez, très concrètement, ça veut dire que chez Picasso, c'est à l'œuvre dans le cubisme, c'est une capacité à envisager les choses de façon différente, multidimensionnelle. Donc, on a chez Picasso un exemple parfait de ce que c'est que cette flexibilité. Alors, effectivement, on peut se dire, mais alors, quel est le rôle de la flexibilité? Mais la flexibilité ne peut pas agir sans les autres facteurs. Nous, ce qu'on a développé dans notre ouvrage, c'est que c'est comme une recette de cuisine. Tous ces ingrédients sont en interaction. La flexibilité, ok, mais il y a la persévérance, il y a l'auto-évaluation, il y a plein d'autres facteurs, ingrédients qui permettent à cette flexibilité de bien fonctionner. C'est ça. Et on ne peut pas isoler un facteur en disant « ça y est, je suis flexible, je suis vraiment génial ». Non, c'est pas possible. Ça marche pas. C'est comme en cuisine. Voilà.
Docteur Lemoine, être un génie, c'est pas seulement avoir découvert des formules, des vaccins ou le fait que la Terre tourne autour du Soleil. Il s'agit aussi, je crois, de personnalités capables de créer du bien. Vous prenez l'exemple, vous, de Gandhi ou de Mandela.
Absolument. Et pour rebondir sur ce que disait José aussi, les génies, c'est des gens qui sont capables complètement de s'asseoir sur tout ce qui a été fait avant pour qu'il y ait un avant et un après. Il y a un avant Picasso, il y a un après Picasso. Et j'ai envie de dire qu'il y a un avant Mandela, un après Mandela, et il y a un avant Martin Luther King et un après. Il y a un avant Coluche et un après Coluche, etc. C'est-à-dire que c'est des gens qui se contrefichent de ce qui a été fait avant, bien qu'ils le connaissent, bien qu'ils en soient conscients. Et c'est ça leur créativité, c'est-à-dire de... pas de mépriser, mais de pas se préoccuper, de scandaliser, de faire autre chose.
Et contrairement à ce qu'on pense, on peut être sportif et génie, selon vous. En tout cas, vous prenez l'exemple de Zinedine Zidane.
Eh oui, c'est-à-dire que je me suis d'abord fait engueuler par mes enfants qui m'ont dit « enfin, ça va pas,
t'as oublié
ce grand génie, le plus grand génie du foot de tous les temps ». On m'aurait dit il y a quelques années que j'aurais parlé d'un footeux, ça serait tombé par terre, je l'aurais pas cru. Et du coup, j'ai travaillé quand même Zinedine
Zidane. Pourquoi il est un génie, Zinedine?
Et ce type est génial. D'une part, il n'a pas été génial que dans le foot, mais il a quand même été génial dans l'entraînement. Dans les deux cas, il a coaché une équipe où il a marqué des buts et il a porté à chaque fois ses équipes au pinacle, au sommet. Les deux fois, il a été capable de prendre des décisions complètement stupéfiantes. La deuxième fois, il a abandonné le Real alors qu'il venait de les faire gagner. Et la première fois, il a mis un magistral coup de boule.
J'allais vous dire, le coup de boule, c'est un coup de génie, ça?
Je crois, oui. Je crois,
un coup de folie, peut-être, aussi?
Non, je ne crois pas que ce soit un coup de... C'est ce que j'ai dit. Au début, j'ai dit, c'est un bon psychopathe, comme tant de ces gens-là. Il n'était pas content, il lui a filé. Mais pas du tout. J'ai regardé cette vidéo des tas de fois. Et c'est impressionnant de voir. Materazzi lui dit un truc probablement très injurieux, et probablement dans la culture de Zizou. Deuxièmement, on le voit qu'il réfléchit.
Quand même, oui.
C'est pas immédiat. Ensuite, il s'avance calmement vers le gars et il lui administre un coup de boule, pas dans la figure comme un voyou, mais dans la poitrine.
C'est vrai.
Et après, il ressort finalement pas mécontent de lui. Ça, c'est un coup de génie, parce que d'abord, le buzz, je ne vous dis pas. Je pense qu'il avait analysé que de toute façon, c'était râpé, que la partie était perdue. Et donc, il est parti sur un coup de génie, il faut bien le reconnaître.
C'est vrai. Donc, il y a des génies dans différents secteurs. José, on a l'impression que les grands génies de l'histoire, ils étaient souvent des personnages quand même assez solitaires, qui travaillaient peu avec les autres. Est-ce que ce trait de personnalité ressort de vos études sur le sujet?
Alors, bien sûr. On a effectivement cette forme d'isolement, de détachement chez ces grands personnages qui a été étudié, notamment chez des grands innovateurs. Pour autant, il faut garder en tête qu'ils ont tous un réseau social. Il ne faut pas se tromper. Il n'y a pas de génie solitaire, c'est une image un petit peu romantique. Le génie est dépendant de son environnement. Il y a des réseaux. Il ne faut jamais oublier que Einstein, par exemple, a eu des appuis quand il était en Italie, durant sa période en Italie, par un ami qui était Michel Besseau, mais pas seulement, par sa femme. Et que du coup, il leur doit, évidemment, d'avoir pu arriver jusqu'au bout. Donc il ne faut jamais oublier que le génie est aussi dans un réseau de relations. Il y a eu d'ailleurs une étude de Duncan Stimonton qui a examiné les relations sociales de 2026 scientifiques et 772 artistes, je crois bien. Et il a constaté que chacun, dans son domaine de prédilection, travaillait dans son réseau. Donc il ne faut pas oublier ça.
Donc les génies ont du réseau, mais alors comment ça se passe, docteur Patrick Lemoine, sur le plan amoureux, familial, pour ces gens-là, leurs priorités, moi j'ai l'impression, mais je ne les connaissais pas personnellement, que c'est leur exploit, leur art, leur découverte, sur le plan amoureux, ça roule, ça roule comment pour les génies?
Pas que, loin de là, pour continuer sur Einstein, c'était un, selon le point de vue, un sale type ou un grand amoureux, il a collectionné les maîtresses, et surtout il a été absolument odieux avec son épouse, qui était une mathématicienne, qui l'a bien aidé, comme l'a dit José, au début de sa carrière, qui l'a aidé à trouver sa théorie, et qui l'a totalement répudié, de même que son fils schizophrène, qu'il n'est jamais allé voir, alors qu'il était hospitalisé. Et quand sa femme lui a dit « Écoute, quand même, j'ai eu un petit rôle », quand une personne est aussi médiocre que toi, elle ferait mieux d'être modeste et de se taire.
Je crois qu'il y a Charlie Chaplin aussi qui a eu une vie sentimentale compliquée.
Pas pareil. Compliqué, oui, mais à mon avis, il a eu deux vies sentimentales. Il a eu une première vie où, effectivement, il a collectionné les divorces les plus chers de tous les temps. Il a épousé, il a été accusé de pédophilie, une très jeune femme. Alors, je suis quand même allé voir les photos de la très jeune femme. Je peux vous dire qu'elle avait peut-être 16 ou 17 ans. Vous lui en donnez facilement 25 ans. Ah oui. Plus pulpeuse, tumeur. Bref, on peut comprendre qu'il était un petit peu abusé par la donzelle. Mais après, donc, dans la deuxième partie de sa vie, il a trouvé son âme sœur, à laquelle il est, je pense, resté fidèle. Il a eu des enfants, il est resté, je crois, 30 ou 40 ans avec elle, sans problème. Donc, il a été capable, comme disait ma grand-mère, de jeter sa gourme quand il était jeune. Puis, il en avait les moyens, et puis après, il est rentré dans le rang.
Bon, ils sont un peu comme nous, en fait, finalement. Parce que les gens, vous parliez de Bach, qui a eu une vie tout à fait rangée, puis il y en a d'autres, c'est plus compliqué.
Oh, pas Picasso. Picasso, ça a été aussi un sale type avec ses femmes et ses enfants.
Oui. Aujourd'hui, José, on utilise beaucoup les termes de précoce ou potentiel surdoué. Est-ce que ce sont possiblement des futurs génies, ces enfants ou ces jeunes adultes qu'on diagnostique avec ces étiquettes-là?
Ah, écoutez, si on avait un test pour déceler les génies, ça se saurait. Non, on n'a pas encore l'idée qu'effectivement, quand il y a des enfants précoces qu'on dit maintenant au potentiel, d'ailleurs, le terme précoce est abandonné, et même surdoué, on dira que ces enfants au potentiel pourraient effectivement développer des capacités exceptionnelles. Pourquoi pas? Simplement, il faut savoir encore une fois que ça ne se fait pas sans un environnement, ça ne se fait pas sans un ensemble de facteurs qui sont qu'on appelle des catalyseurs, c'est-à-dire comme en chimie, qui vont permettre la réaction.
Et ce n'est pas qu'une question de QI, on l'a dit déjà
tout à
l'heure.
Non, ce n'est pas qu'une question de QI. Donc, avoir un enfant à haut potentiel, ça ne veut pas dire qu'il sera un futur génie. Et surtout, en termes de créativité, il ne faut jamais oublier, je le redis encore, qu'on ne va pas forcément avoir un lien entre ce QI, comme vous le dites, et puis le développement exceptionnel. Mais gardons en tête que la persévérance est très importante. Il y a une étude qui a été faite par Szentmihalyi, qui est un psychologue hongrois, sur des éminents personnages, 91 éminents personnages, dont 14 prix Nobel. Il a montré que ces gens-là, le trait commun, il y avait cette fameuse persévérance, qu'ils avaient contourné les obstacles. Ça, c'est très important.
Docteur Lemoine, si on devait retenir un seul génie, je crois que vous citeriez sans doute Léonard de Vinci. Vous dites dans le livre que c'est le génie le plus complet de l'histoire de l'humanité. Alors pourquoi vous lui décernez ce titre-là?
J'ai hésité d'ailleurs avec Blaise Pascal, mais quand même Léonard de Vinci est au-dessus parce qu'il maîtrisait toutes les connaissances de son temps et à un grand niveau, sans trop de préoccupations éthiques, il faut bien le dire. Et donc, c'est le peintre qu'on sait. Je vous rappelle que récemment, il y a un tableau le plus cher de tous les temps qui a été vendu, qui est sur le Salvador Mundi, qui est parti dans les pays arabes, on pense. Bref, il était un mathématicien, il était un physicien, il était intéressant quand même dans certains de ses écrits.
Donc le plus génial des génies.
C'est le plus génial, il savait tout sur tout, et puis il était même génial sur son look. Il était extrêmement préoccupé de son look, il s'habillait, il se coiffait, à la fin il s'était fait un look de prophète extraordinaire. Le mec était très bon dans la com.
Très complet dans tous les secteurs. José de Valverde, il y a quand même un truc qui me chagrine un peu depuis le début de l'émission, même si on a cité rapidement Coco Chanel ou Marie Curie, il y a quand même, j'ai l'impression, largement plus de génies hommes que femmes. Ou alors c'est parce que les femmes, on communique pas assez. Qu'est-ce qu'on peut en dire là-dessus?
Alors, tout à fait, c'est une question centrale parce qu'il faut aussi voir comme par hasard, on retrouve effectivement un grand nombre de génies hommes. Mais pourquoi? Parce que Il y a eu une féministe qui était, qu'on appelle en fait Mathilda, c'est l'effet Mathilda, qui est au 19e siècle, qui a bien montré qu'en fait, on avait minimisé le rôle des femmes dans les découvertes. Et un des exemples les plus frappants, c'est la découverte de l'ADN, je l'ai souvent dit, Rosalind Franklin, qui a mis au point un appareil qui a permis une type de radio qui a permis de découvrir la double hélice, mm-hmm. de bien analyser les molécules, et on n'a pas parlé d'elle pour le prix Nobel. Elle a été juste oubliée. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont très récentes. Hein. Et on voit bien comment, effectivement, le rôle des femmes a été minimisé.
Mais il y en a autant dans la population, vous pensez, c'est réparti de manière équitable?
Il y a autant de génies femmes qu'hommes, heureusement. Il faut le dire haut et fort. Et ça, c'est quelque chose que nous, enfin, encore une fois, on a rappelé, parce que trop souvent, effectivement, on cite les mêmes. Mmh. Mais il y a effectivement des femmes qui sont des génies très importants. Marie Curie, évidemment, parce qu'elle est très connue. Mais on en a d'autres, bien évidemment, et heureusement.
Oui, mais enfin, Marie Curie, qui travaillait avec Pierre Curie, son mari, n'a pas été proposée pour le prix Nobel. Et il a fallu que son mari, qui était un bon mari, cette fois-ci, la propose pour qu'enfin le prix Nobel l'accepte. Et puis, c'est vrai que même aujourd'hui, il y a des femmes géniales qui sont oubliées. Par exemple, dans mon livre, j'ai complètement oublié Mélanie Gomez et je le regrette amèrement.
Oh ben je vous en remercie. On fera un tome 2 et vous me rajouterez. On a parlé tout à l'heure de ces génies du bien avec Mandela, par exemple, mais on dit aussi génies du mal parce que les savants ont aussi des parts d'ombre. Docteur Lemoine, vous en parlez dans votre bouquin. Sigmund Freud, par exemple, qu'est-ce qu'on peut en dire?
Alors, je ne dirais pas que c'est un génie du mal, mais c'est vrai qu'il y a des sacrées zones d'ombre, comme pour Einstein aussi, comme pour Picasso. Alors, Sigmund Freud, c'est difficile pour moi, psychiatre, d'en parler parce que, vous comprenez, les psychanalystes ont toujours raison. C'est-à-dire, si vous dites un truc, c'est que vous êtes d'accord, et si vous dites le contraire, c'est que vous avez des résistances. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et comme j'ai été élevé au lait de la psychanalyse, eh bien, si j'ai le malheur d'en dire un peu de mal, on va me dire, tu es en train de régler ton Oedipe. Pourtant, je l'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé mon Oedipe. Parce que c'est, contrairement à ce qu'a dit Freud, c'est un truc pas du tout universel. Ouais. C'est sûrement valable chez un bourgeois juif du 19e siècle à Vienne. Donc, Freud était un génie, certainement. Il nous a appris quand même à respecter les malades mentaux, à les écouter, à penser qu'ils ne disaient pas que des bêtises. Donc ça, il faut lui rendre hommage là-dessus, c'est énorme.
Sûr.
Mais en même temps, il était quand même assez malhonnête. Il faut reconnaître qu'il a caché, par exemple, ses résultats. Lorsqu'il a fait ses cinq évangiles des cinq psychanalyses, qui est le livre, on peut dire, crucial de la psychanalyse, il a juste oublié de dire qu'il s'était planté sur les diagnostics et qu'il les avait sévèrement aggravés.
Bon, donc
sauf le président Schreiber, qu'il n'a jamais vu.
Les génies peuvent être malhonnêtes, on va y revenir, c'est très clair. En tout cas, vous restez avec nous, bien fait pour vous, continue dans quelques minutes. On va se demander notamment si le génie, c'est génétique, enfin héréditaire. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut fabriquer des génies? Est-ce qu'en élevant un enfant d'une façon ou d'une autre, on pourrait un peu forcer le destin? On y revient très vite, alors à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On vous dévoile ce matin les secrets des génies. On en parle avec le docteur Patrick Lemoine, psychiatre et docteur en neurosciences, ainsi que José de Valverde, psychologue spécialisé dans le haut potentiel. José, beaucoup de maladies ou troubles pathologiques, on va dire, ont un facteur génétique. Du coup, même si ce n'est pas une maladie d'être un génie, est-ce qu'on peut se poser la question? Est-ce qu'il y a des gènes de génie? Pour faire simple, est-ce que les descendants de Louis Pasteur ou Steve Jobs vont révolutionner notre monde, peut-être?
Alors, ça, c'est une question qui obsède beaucoup de gens et je pense que c'est une question effectivement centrale et on va essayer d'y répondre de façon concise. Alors déjà, commençons par Sir Francis Galton, qui est le cousin de Darwin, qui, lui, après une étude de généalogie, on va dire, a été convaincu au 19e siècle que l'intelligence était héréditaire comme un trait biologique, en fait, de la cour de Gauss. Et voilà, on est intelligent, les enfants sont intelligents. Et donc, du coup, ça a donné des choses effectivement peu recommandables, avec l'idée que finalement, dans différents domaines, on était quelque part destiné à une vie ou une autre.
Ça, on sait bien que c'est faux aujourd'hui, quand même.
Aujourd'hui, on sait que c'est faux. Alors, le génie, pour autant, il y a des recherches par les généticiens.
Juste pour dire quand même que Galton a été à l'origine du nazisme et de l'eugénisme.
Oui. Il faut le rappeler. Et qu'effectivement, si mes suivants sont bons, on présentait ses empreintes génitales. Enfin, avec le doigt, on avait l'empreinte digitale pour dire qui on est sur sa carte d'identité.
Donc, tout
c'est
ça,
pas mal, quoi.
Évidemment,
c'est une époque où on est persuadé que la génétique, effectivement, l'hérédité est fondamentale. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans, puisqu'on sait fait, il y a des recherches, notamment nous, on cite Robert Plomin, généticien au King's College de Londres, qui a étudié beaucoup de gens exceptionnels, et il en conclut que les parents de génie ne sont pas des génies. Donc pour lui, il n'y a pas
d'hérédité.
Pour autant, en réunissant un grand nombre d'études sur le génie, un autre chercheur qui est Simonton a montré quand même qu'il y avait effectivement une part de variabilité de la créativité qui était attribuée à la génétique, à des facteurs héréditaires, donc des capacités créatives qui sont fortement associées aux traits de personnalité, dits d'ouverture, à l'expérience, etc. Bon. En tout cas, ce qu'on garde, c'est que c'est complexe et que c'est une question qui n'est pas réglée, en tout cas à l'heure actuelle.
Bon, et si vos parents n'étaient pas des génies, vous avez encore, j'imagine, le pouvoir de le devenir. La preuve, docteur Lemoine, vous citez par exemple dans votre livre l'empereur philosophe romain Marc Aurèle, dont le seul défaut, vous dites, c'était son fils Commode.
Ah oui, qui n'était pas Commode, celui-là, qui était vraiment d'une cruauté extrême, alors que Marc Aurèle fait partie des grands génies du bien au niveau politique. Mais d'un point de vue génétique, c'est intéressant de voir, puisque on sait que les bipolaires,
il y a quand même quelque chose.
C'est quand même génétique. Ce qu'on sait aussi, c'est que Marie Curie, sa fille, a eu aussi un prix Nobel. On dirait que son gendre aussi, son mari aussi, ils n'étaient pas apparentés.
Mais bon, c'est peut-être l'éducation aussi,
bien sûr, mais l'environnement. Il y a le fait aussi que nous sommes une espèce métissée. À savoir que nos ancêtres, c'est Homo sapiens, mais c'est aussi Denisova et c'est aussi Néandertal. Nous sommes tous des métis, nous sommes tous des bâtards, des corneaux. On sait que les chiens corneaux sont plus intelligents que les chiens de pure race. Eh bien, j'ai la faiblesse de penser que c'est pas fréquent dans la nature des animaux qui s'unissent entre espèces différentes. Ouais. Chez les humains, c'est le cas. Il y a aussi chez les cétacés, on sait que les narvals s'unissent avec les belugas et font des trucs qui ressemblent à rien. On ne sait pas encore s'ils sont plus intelligents. Mais moi, je tiens beaucoup à cette idée du métissage à l'origine de l'intelligence.
Vous dites aussi quelque chose d'intéressant, Patrick Lemoine, c'est que la prise de risque, c'est un point commun de nombreux génies. Vous avez un exemple, peut-être ?
Je pense qu'effectivement, par exemple, toujours pour en venir à mon pote Léonard de Vinci, il a pris des sacrés risques. Il est parti de Milan pour rejoindre César Borgia, qui était quand même un sacré bonhomme. Il s'est permis de fabriquer avec eux des machines de guerre. On pourrait dire aujourd'hui des machines, des armes de destruction massive.
Zidane a pris des risques aussi, d'ailleurs.
Aussi, oui. Et ça lui a pas si mal réussi. Léonard de Vinci non plus, d'ailleurs, parce qu'après, il est parti. Il est allé chez le roi de France, où il a fini ses jours dans une immense gloire. Donc, cet homme qui était génial, effectivement, a su faire ce que personne n'avait anticipé, et il a gagné.
José, autre chose importante pour espérer devenir un génie, il est important, vous dites, d'avoir des habitudes et des rituels. Je crois que normalement, notamment, c'était le cas de George Sand, qui avait vraiment une vie, mais alors réglée comme du papier à musique.
Ah oui, alors on trouve ça chez bon nombre de génies, tout simplement parce que les rituels permettent de s'organiser et de se concentrer sur l'essentiel. George Sand est un très bon exemple. Elle avait une vie réglée comme une horloge. Nous, on en parle, bien évidemment. Donc, il y avait déjeuner à 10 heures. Après, on fait une heure de promenade de 2 à 7 heures. Et puis, travail pour ceux qui veulent travailler, liberté pour les autres. Il y a le dîner à 7 heures, veiller, occuper, etc.
Ouh, ça a l'air ennuyeux.
Non, mais c'est un peu obsessionnel. Mais en même temps, ça permet effectivement de travailler comme on veut. Eh bien, vous savez bien qu'il y a des écrivains qui vivent la nuit. Tout ça, ça fait partie de la gestion des ressources. Très, très importante. Comment je gère mes ressources comme génie? Et quelquefois, on se coupe de l'entourage parce que ça peut paraître inexplicable. C'est-à-dire que cette forme de ritualisation, c'est étrange pour l'entourage. Mais ils en ont besoin. Il y a Amélie Nothomb aussi qu'on cite. Donc voilà, ça permet de mieux travailler.
Si je peux me permettre, José, il y a une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que génétiquement, on est soit du matin, soit du soir. Et les gens du matin sont beaucoup plus routiniers que les gens du soir. Donc, il faudrait voir si les génies du matin sont plus routiniers ou non. Moi, par exemple, je suis du matin. Tous les matins, il y a une main invisible qui m'arrache du lit à 5h30. Et j'écris donc jusqu'à 8h30.
Mais on ne tirera rien de vous à 22h ou 23h, c'est ça ?
Vous avez bien fait de m'inviter à une matinale, parce que ça aurait été nul. Et le plus bel exemple de ça, c'est Kant. Kant était tellement obsessionnel dans sa vie qu'il faisait une promenade en allant toujours jusqu'au même platane et tous ses voisins réglaient leur montre sur la promenade de Kant. Ah, c'était drôle, incroyable.
Hein. J'imagine que le milieu social et culturel, on en a dit un mot un petit peu tout à l'heure, mais ça a une influence sur notre capacité à devenir un génie ou pas. Einstein, il n'aurait sans doute pas fait ce qu'il a fait sans avoir eu la chance d'étudier. Ça dépend de ça aussi, José, non ?
Oui, tout à fait. De toute façon, surtout en physique, on est mal barré si on n'a pas appris, si on n'a pas de connaissances. Hein,
c'était un cancre quand même.
Oui, bien sûr, mais c'était quelqu'un de très curieux et c'était quelqu'un qui avait cette capacité d'apprentissage qu'on trouve chez ces gens-là.
Mais il a été à l'école quand même, compris, c'est le minimum. Oui, ou quoi, c'est ça.
Mais indéniablement, les connaissances effectivement sont très importantes, sauf que c'est la route pour y arriver qui change. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément des bons élèves, comme dit Patrick, on peut prendre des routes, des chemins de travers, ça caractérise tous ces gens-là. Et on a même des autodidactes. On a des autodidactes, comme Boll, par exemple. Donc, il y a le mathématicien. Il y a des gens qui prennent la route qui leur convient. Mmh. Et s'ils ont un barrage, ils contournent. Ce qu'il faut tenir compte, c'est ça, c'est très intéressant, c'est que, en fait, ils vont aller à l'encontre d'un déterminisme fixé à l'avance. Ça m'intéresse beaucoup, parce que, contrairement à ce que peut penser, la route était tracée. Marx, il devait devenir avocat, etc. Non, ils prennent un autre chemin. Ou Humboldt, il aurait pu rester chez lui. Il est parti en Amérique du Sud pour cartographier les rivières, alors qu'il avait les moyens de rester chez lui. Donc pourquoi ils vont à l'inverse de ce qui est prévu au départ? Ça, c'est extrêmement intéressant.
On a une question de Samantha au 3921 qui nous a demandé, est-ce qu'on n'est pas tous un ou une génie en puissance, mais on n'a pas encore trouvé tous le domaine dans lequel on est un génie? Docteur Lemoine,
moi,
peut-être?
Je pense qu'effectivement, je suis d'accord, toutes les nuits nous sommes géniaux quand nous rêvons, mais que le problème c'est d'une part ce qu'a dit José, c'est-à-dire être capable de le mettre en musique, de le mettre en forme. Deuxièmement, avoir le culot de dire, bah, ça c'est complètement incroyable. Paul McCartney, rêve yesterday. Et puis, il se dit, c'est quand même, c'est beau, j'ai dû retrouver une musique connue. Et puis, quand même, comme il avait les outils, comme il avait le groupe, comme il avait les moyens, il a fait Yesterday, qui est une des plus belles mélodies de tous les temps.
José, si je veux tout faire pour que mes enfants deviennent des génies, bon, c'est un peu une drôle d'idée quand même d'avoir cette obsession-là, mais imaginons, est-ce qu'il y a une façon, une bonne façon, entre guillemets, de les élever, de les diriger pour que, bah, ils mettent vraiment leur potentiel au maximum pour devenir un génie, je ne sais pas, dans l'art, dans le sport, dans les sciences? Est-ce qu'il y a des choses à faire éventuellement?
Cette question, effectivement, mais je vais juste en plus compléter avec la question précédente. Bien c'est sûr. Que nous, enfin, on en tient absolument à rappeler qu'il y a des forces facilitantes et des forces limitantes.
Et, alors oui.
et donc, les forces limitantes, par exemple, c'est la peur de l'échec. C'est le fait de dire, je ne suis pas capable de faire ça. C'est aussi rester dans une forme de zone de confort. Donc, qu'est-ce qui se passe? On peut apprendre aux gens à développer certaines choses qu'ils n'auraient pas osé développer, notamment, je pense aux enfants, en ayant tout simplement un esprit d'ouverture.
Mettre en avant ceux dans quoi ils sont forts et puis ne pas pénaliser là où ils sont un peu moins doués.
Voilà, leur apprendre à prendre des risques. Ça, c'est essentiel, d'accepter le risque et rebondir sur l'échec, par exemple. Mais même chez les adultes. C'est-à-dire que quand on apprend aux gens qu'on est un peu d'audace, mais mesuré avec un savant dosage, on peut peut-être faire des choses intéressantes et révéler des choses. Accomplir, c'est bien.
Docteur, vous avez la méthode pour élever des petits génies ou c'est vraiment trop dangereux ce que je suis en train de dire quelque part?
Pour moi, le boulot des parents, c'est que leurs enfants soient heureux et épanouis. Si en plus ils sont géniaux, ben c'est bien. Bon, il se trouve que mes trois enfants, mes quatre petits-enfants sont heureux et géniaux, mais j'y sais pour rien. je plaisante. Mais je crois quand même que ce qu'il faut rechercher, c'est le bonheur, l'accomplissement et l'épanouissement. Le génie, ça échappe à tout le monde.
Oui, et puis il faut faire attention, parce qu'être un génie, ça ne veut pas dire forcément qu'on va faire le bien. Il faut le rappeler, hein, encore une fois, ça peut être aussi tout l'inverse, utiliser son génie pour tuer. Je crois que vous parlez dans le livre de serial killers qui sont vraiment des génies, selon vous.
Ah oui, il y a des gens qui ont une inventivité pour faire le mal extraordinaire. Hein. Alors, je ne parlerai pas de Pol Pot, enfin, qui est dans mon livre, je ne parlerai pas d'un tas de Staline et tous ces gens-là, mais regardez le roi Chaka, qui était un roi zoulou du 19e siècle, qui présidait qui régnait sur un empire plus grand que la France. Ce n'était pas n'importe qui. Sa maman meurt, il décrète un deuil généralisé, et du coup, il était interdit aux maris et aux femmes de dormir ensemble, aux taureaux et aux vaches de dormir ensemble, et si une femme ou une vache était enceinte, eh bien on les éventrait.
Okay.
C'est quand même de la créativité, vous en conviendrez, Mélanie.
Soyons heureux, soyons géniaux, mais pas forcément le génie en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux pour cet entretien passionnant. Je rappelle pour nos auditeurs vos ouvrages respectifs, La santé psychique des génies chez Odile Jacob et le livre Les secrets des génies aux éditions Humaine Science. Bon, à présent, on va changer complètement de sujet et passer à notre séquence tendance. Vincent Busset va nous faire un focus sur les plantes vertes en intérieur. Comment bien les choisir ou les installer? Il va tout nous expliquer. Et puis, on passera aussi à table avec Sophie Menu et sa chronique gourmande. Le gazpacho sera à l'honneur dans quelques minutes. Donc, restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous. Vous êtes de retour dans Bienfait pour vous. Et on démarre à présent notre partie consacrée aux tendances. Alors je me tourne d'abord vers vous, Sophie Menu, bonjour.
Bonjour Mélanie.
Dans votre chronique, il y aura de la fraîcheur dans l'assiette, voire même dans le verre, hein, c'est bien ça?
Exactement. En fait, on va parler de gazpacho, la soupe froide qu'il nous faut.
Je m'appelle Gomez, Busset, il y a un Z, peut-être que c'est un peu espagnol aussi.
Ouais, bon, en tout cas, j'adore ça, donc bon. C'est vrai. Allez.
Merci beaucoup Sophie, on vous retrouve dans un instant, car tout de suite c'est Vincent Busset donc, qui va prodiguer ses bons conseils déco. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de verre aujourd'hui dans ce studio.
Il y a de la verdure, j'adore ça moi aussi. Les plantes, c'est un indispensable en décoration. Ça permet d'apporter de la vie, ça permet d'apporter quelque chose de plus chaleureux. Donc on en profite, et notamment quand on vit dans un appartement, qu'on n'a pas de jardin, c'est toujours bien d'avoir des plantes vertes chez soi. Ça amène un petit potager, un petit peu de zénitude, donc c'est très bien. La seule contrepartie avec les plantes vertes, c'est l'entretien. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut les faire mourir ces plantes, et c'est dommage parce que parfois ça représente un petit budget. Donc commencer peut-être par des plantes faciles à entretenir. C'est-à-dire que quand on choisit ces plantes vertes, on a le petit descriptif sur le site ou dans le magasin, et on a le niveau de difficulté, que ce soit par rapport à la arrosage, à l'ensoleillement, à toutes ces choses-là. Donc, augmenter comme ça, crescendo, le niveau de difficulté au niveau de l'entretien.
En gros, on prend des plantes à notre niveau.
C'est ça,
quoi, hein,
exactement. C'est ça. Et puis, on s'adapte surtout à ses habitudes de vie. C'est-à-dire que si on est tout le temps en vacances ou en déplacement professionnel, c'est pas la même chose que si on est en télétravail. Et de la même manière, en fonction de la pièce dans laquelle on va utiliser les plantes, on fera des choix différents. C'est-à-dire que si nous, on est dans une salle de bain qui n'a pas de fenêtre, avec l'humidité, on ne fera pas le même choix que dans un salon où on a une énorme baie vitrée. Donc, il faut vraiment adapter les plantes à son style de vie, tout simplement.
Et sa santé, je crois.
Alors oui, la santé, parce que, alors, d'une manière générale, on va pas les plantes, ça a quand même des effets bénéfiques, hein, ça absorbe le CO2, ça rejette de l'oxygène, mais certaines peuvent être nocives, et notamment pour les animaux domestiques, ça peut être toxique, donc soyez vigilants aussi quand vous choisissez vos plantes. Et puis si vous êtes allergique au pollen, évitez les plantes justement à pollen, parce que ça peut créer des allergies.
Et je crois qu'il y a même des plantes dépolluantes, hein, dans celle-là.
Oui, il y a des plantes dépolluantes, alors c'est anecdotique, parce qu'il faudrait des quantités industrielles dans son intérieur pour vraiment que ça ait un effet bénéfique, mais c'est toujours agréable d'avoir une plante qui est dépolluante.
En tout cas, ça vaut le coup de se renseigner sur les plantes qu'on effectivement on va installer. Alors,
justement,
achète où justement ces plantes fleuristes modernes?
Alors moi, il y a Bergamote que j'aime beaucoup parce que c'est un site qui fait de la livraison, donc c'est une sorte de fleuriste mais un petit peu modernisé, un petit peu amélioré, et c'est bien aussi quand on habite en ville et qu'on n'a pas de voiture forcément, on galère dans le métro avec une plante de 1m20 ou 2m, donc là ils livrent chez nous directement les plantes, et puis il y a vraiment des plantes qui sortent un petit peu de l'ordinaire, notamment.
Ils livrent dans toute la France, hein, Bergamote?
Ah oui, toute la France, oui. Et il y a notamment, je vous ai ramené un petit olivier qui s'appelle Milo, qui vient de ce site.
Dans un petit pot en terre, hein. Enfin, c'est très joli. Hein.
Et c'est vraiment une plante qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de l'entretien, c'est hyper simple. Ça résiste à la canicule, évidemment, puisque ça vient du sud. Donc un petit peu d'eau, peu importe où on la met, ça fonctionne.
Il est tout petit en plus, il est mignon comme tout.
Et donc oui, ça s'adapte bien dans les petits intérieurs. Donc ça, c'est très bien.
Il fait combien celui-là? Il fait 20 cm.
Oh, il fait 20 cm,
ouais. Peut-être un peu plus, 25.
Après, évidemment, ça dépend si on le rempote et si on veut le faire grandir. Parce que c'est ça que j'aime bien aussi avec les plantes vertes, plus que par rapport aux fleurs, c'est que c'est pas éphémère, c'est quelque chose qu'on peut garder des années et des années.
Oui, Sophie.
Alors figurez-vous, Mélanie, moi, on m'en a offert un il y a très longtemps.
Ne dites pas qu'il est mort.
Non, au contraire, il fait 2 mètres maintenant.
Et voilà.
Bébé deviendra grand.
Mais alors, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que si on ne le rempante pas, il va s'adapter et les racines n'iront pas plus loin. Donc c'est vraiment, on a une grande liberté par rapport aux plantes vertes.
Mais l'olivier, pour moi, c'est une plante du sud.
Oui,
hein,
c'est ça,
il faut du
ça.
Soleil, donc j'imagine que même à la maison, si on a un petit olivier qu'on laisse même en petit pot pour pas qu'il grandisse trop, il faut le mettre dans un endroit ensoleillé de l'appartement.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà des plantes chez vous, mais vous avez remarqué, elles ont un endroit où elles se plaisent bien dans la maison. Et donc, faut pas hésiter à les faire tourner quand on voit qu'une plante, elle est un petit peu malade ou pas très en forme, de la changer de place pour voir ce qui lui convient le mieux.
Moi, j'avoue, en intérieur, j'ai absolument pas la main verte.
C'est
dehors, par contre, tout pousse bien.
Mais
essayez l'orchidée, Mélanie.
Oui, merci, j'ai essayé, j'en suis à mon 18e, je crois.
Enfin, que les orchidées, c'est compliqué.
Chez les autres, ça repousse, chez moi, jamais. Hein. Vous allez nous parler aussi, Vincent, des plantes personnalisables.
Oui,
qu'est-ce
alors,
que vous...
c'est celle qui est juste à côté de vous. C'est un site qui s'appelle By Charlot, que j'aime beaucoup. On peut tout personnaliser, la taille, le type de plante, le cache-pot et l'étiquette, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de mettre un message personnalisé dessus.
On aurait pu.
Donc on peut faire une déclaration, par exemple, on peut mettre une citation qu'on aime bien et sur l'étiquette ce sera écrit.
Ou un petit mot d'amour si on a envie.
Exactement. Si on veut l'offrir. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'on a la date de naissance de la plante qui est écrite dessus.
Voilà. C'est quoi donc la marque?
By Charlot.
By Charlot, d'accord.
Et puis un dernier mot rapidement sur les pots, parce que là aussi, quand on a des difficultés au niveau de l'entretien, on a des pots autonomes qui existent. En gros, ça fonctionne par capillarité. Donc vous avez un modèle à côté de vous. Donc c'est un pot tout simple en terre cuite.
Je l'ai pas cassé.
Je croyais que c'était un soin. morceaux à glace, moi.
Eh bien, c'est un petit peu le principe. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des glaçons, on va mettre de l'eau. Et par capillarité,
on
l'eau va absorber...
On peut pas mettre des glaçons aussi. Ça peut servir de... pour les bouteilles.
Pour l'apéro. Alors, c'était pas fait pour à la base, mais puisque vous avez l'air d'être convaincu par ça, pourquoi pas. Et puis, j'en ai un autre ici. Donc ça, c'est Wetpot qui fait ça, qui est une marque suédoise. Et Greenfinity, qui est une marque créée pendant le confinement par une mère de famille qui s'est remise au jardinage. Et pareil, ça fonctionne par capillarité. Donc, vous voyez, au fond du pot, on a des espèces de lacets, si vous voulez.
Des trous avec des lacets qui sortent du pot.
Qui trempent dans l'eau. Et du coup, bah, la plante boit régulièrement. Ah, donc ça, quand on part en vacances, c'est vraiment pas mal.
Vous m'avez pas dit juste le prix là, de By Charlot, la plante personnalisable donc, sur laquelle...
Alors, c'est très variable. Parce que
j'ai vu entre 19 et 189
parce
euros.
Il y a des plantes qui font quasiment 2 mètres. Et puis, les petits modèles qui font quelques dizaines de centimètres.
Pour Wetpot, c'est pareil.
Il y a plusieurs tailles. Il y a 3 tailles qui existent. Donc, ça va environ de 39 à 80 euros, quelque chose comme ça. D'accord. Et puis ça, c'est une soixantaine d'euros, Greenfinity.
Très bien. Et puis, sinon, oui, je crois que vous avez des accessoires.
Voilà,
aussi.
Alors justement, les plantes vertes, c'est également les accessoires, donc les arrosoirs, les cache-pots, les vases. Et donc, j'ai un petit cadeau pour vous.
Ah, j'adore les cadeaux.
Donc voilà, un petit vase en papier, figurez-vous.
Oh. Ah, alors, comment ça marche? Viens de nous donner des petites feuilles de papier. Je ne sais pas ce qu'on va faire avec ça, mais.
Non, mais c'est amusant. C'est un kit qui comprend une enveloppe, du papier à lettres et un vase en papier, donc on peut offrir. Et concrètement, c'est un vase coloré avec. Il y a plusieurs tailles qui existent et on vient simplement couper une bouteille d'eau en plastique, on la met au fond.
Ah, ça cache la bouteille
et ça
dit. Exactement,
et ça fait un petit vase. Voilà,
c'est
donc
super,
ces cadeaux,
bonne idée,
c'est pour
ça,
vous.
Et ça donc, s'appelle comment ce
ça, truc-là? Ça, c'est Octaevo, qui est une jeune marque espagnole. Il y a 2 tailles. Voilà, moi, j'ai ramené le grand modèle également.
Ah oui, vous m'avez donné le petit, vous êtes gardé
non,
le grand.
C'est parce qu'il n'y a pas d'enveloppe pour celui-là, en fait. C'est uniquement pour les petits modèles où on a ce modèle de
courrier.
Oui, c'est rigolo, c'est amusant, c'est un petit clin d'œil.
Puis on peut en changer régulièrement si on veut en plus.
Exactement, il y a une infinité de couleurs et de motifs, donc vous trouverez forcément celui qui vous plaît.
Bon, Vincent, donc on se lance ou pas dans l'achat d'une
bien
plante
sûr,
d'intérieur, même si on n'est pas très doué?
Oui, on se lance et puis on fait simplement attention à son style de vie, à la pièce dans laquelle on utilise la plante et puis à l'entretien, la difficulté de l'entretien. Mais encore une fois, en se renseignant sur le site ou dans le magasin, on trouvera forcément une plante qui correspond à nos habitudes.
Parfait, merci beaucoup Vincent pour tous ces conseils. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai le ventre qui gargouille maintenant. C'est presque l'heure de déjeuner. Ça tombe bien car je suis certaine qu'on va se régaler avec vous, Sophie Menu. On vous écoute.
Alors oui, on va se régaler. En plus, la météo est au beau fixe, il fait chaud et c'est le moment de goûter du gazpacho.
Alors justement, c'est quoi l'histoire de cette soupe froide?
Je vais vous raconter, je voudrais juste vous présenter. En face de vous deux, vous avez des petits...
Deux verres avec des gazpacho, j'imagine.
Des gazpacho un peu différents, justement, de la recette classique. C'est la chef Rebecca Beaufort du restaurant Dante. Elle vient juste de l'ouvrir rue Paradis. C'est une super chef, elle a travaillé...
Ah, c'est marrant, ça n'a pas la couleur classique du gazpacho.
Non,
il y en a un orange et un tout vert. Alors, donc c'est quoi ce truc-là?
Le orange, c'est melon et tomate ananas.
Oh, c'est pas commun.
Donc, mélange.
Il y a à manger et à boire. Hein.
Oui, et c'est l'autre, bon, alors qui est un peu plus épais d'ailleurs, c'est un gazpacho au concombre avec. Il y a de la feta et du poivron dedans, parce que ce qui est sympa dans le gazpacho, justement, c'est un peu le mix entre le côté lisse et le topping.
C'est délicieux, les deux sont excellents. Ouais. Petit faible pour melon et tomate ananas. C'est fou parce que vraiment on en voit partout des gazpachos maintenant. Hein.
On en voit partout parce que c'est super facile à faire et l'industrie alimentaire s'en est emparée parce que c'est pas cher. Tout le monde aime bien quand même le gazpacho. Donc on en trouve dans tous les supermarchés et je les ai testés.
Oui, en briques, hein, franchement, ils sont pas mauvais. Hein.
Pas mauvais du tout parce qu'en fait les ingrédients sont assez basiques et on peut pas faire du mauvais en fait.
C'est pas mauvais, c'est pas trop cher, c'est gagnant. Hein, en été, je trouve ce truc-là.
Quand on
ça vient d'où alors la soupe, le gazpacho?
Alors Mélanie, vous qui êtes d'origine espagnole,
je pose la question, mais j'ai une petite idée
voilà.
Quand même.
Alors, ça nous vient d'Espagne et plus précisément d'Andalousie. Alors, le nom arabe...
De chez moi, hein, parfaitement.
Ouais, le nom vient de... En revanche, est un mot sans doute arabe qui veut dire pain trempé. Parce qu'en fait, au départ, c'est une soupe qui est très ancienne. Elle est née pratiquement au Moyen-Âge. Et en fait, au départ, il n'y avait pas de tomates, d'ailleurs, dedans, puisque les tomates ont été découvertes beaucoup plus tard. Et c'était une soupe que préparaient les paysans, qui était facile à préparer, surtout avec leur reste. Donc, c'était du pain.
Ma grand-mère mettait du pain dans le gazpacho,
voilà.
De toute façon.
On met toujours du pain.
Oui,
alors, en fait, on le pilait dans un mortier avec ce qu'on avait, donc des concombres, des poivrons, mais surtout, évidemment, en Espagne, hein, de l'ail, de l'huile d'olive. Et on l'écrasait. Et à l'époque, on pouvait même mettre des amandes, parce qu'en Espagne, on produit énormément d'amandes. Et en fait, ça faisait une soupe qui était fraîche, puisque Andalousie, pendant l'été, ça cogne. Hein.
Oui.
Et en même temps, c'était quand même une soupe qui était régénérante et qui, surtout, tenait l'homme, quoi, qui travaillait dans les champs.
Et au XVIe siècle, on l'appelait capone de galera.
Oui, alors en fait, ça c'est une recette très ancienne qu'on a retrouvée. Et c'était toujours du pain rassis, alors très très dur, qu'on faisait carrément tremper dans de l'eau froide pour le ramollir. On ajoutait des anchois, de l'ail, du vinaigre aussi, hein, qui est vraiment un ingrédient très important en Espagne. Et de l'huile, et puis on ajoutait ça aux légumes. Et puis c'est que en fait, au XIXe siècle et plus tard au XVIe siècle, quand la tomate est arrivée du Nouveau Monde vers l'Europe, et que la femme de Napoléon III, Eugénie de Montijo, qui était espagnole, et c'est elle en fait qui aimait bien cette soupe et qui l'a développée. J'ai retrouvé un texte, d'ailleurs c'est drôle, de Théophile Gautier,
ouais.
Qui raconte son expérience avec le gazpacho. Alors c'est au XIXe, et il dit c'est une drôle de soupe qu'on sert dans les écuelles, et même les femmes les plus élégantes en boivent. Au début, ça fait quand même bizarre de boire un truc froid et lisse dans une écuelle. Mais quand on y prend goût, en fait, eh ben,
on devient accro.
Ça. Exactement, c'est drôle.
Sophie, quelle est aujourd'hui la recette la plus courante, on va dire?
Alors, la recette la plus courante, maintenant que voilà, les tomates sont arrivées chez nous, c'est vrai que la base, c'est surtout des tomates. Alors, on prend du pain rassis. Moi, ce que je fais, c'est ma recette. Mm-hmm. Je mets du pain dans un mixeur et je mets dessus du vinaigre. Mm-hmm. Et de l'huile, déjà ça aide à ramollir un peu. Et puis je coupe des tomates que je pèle et épépine. Moi j'aime pas trop la peau, même quand c'est mixé. J'ajoute des poivrons, des oignons.
Jusque là je vous suis, c'est ma recette aussi, allez-y.
Un peu d'ail. Ouais. Et en fait vous mixez très très fortement, parce que ce qui est sympa dans le gazpacho, c'est le côté lisse.
Ah, moi j'aime bien quand il y a du morceau.
Alors bah, on n'est pas
dans la même école, non, c'est pas grave, chacun ses
goûts.
Il
en faut pour tout le monde, mais en fait ce qui est sympa, moi ce que j'aime bien, c'est mettre par-dessus ensuite.
Ah oui, oui,
des œufs durs
hachés. Comme des toppings, quoi. Moi, je mets des petits dés de concombre.
Concombre, c'est très
des
bon.
Des pignons grillés aussi.
Oui, exactement. Tout ce qui est fruits secs.
Des graines de courge aussi.
Des graines de courge.
Allez, mettons tout ce qu'on veut là-dessus.
Et alors, moi, j'ai une astuce que j'aime bien aussi. C'est souvent le poivron, il y a beaucoup de gens qui ne le digèrent pas bien.
C'est vrai.
Donc, je l'ai fait griller auparavant, au four, au barbecue.
Ça se digère beaucoup mieux ainsi, ouais.
Et en fait, normalement, dans le vrai gazpacho, tout est cru. Mais bon, on peut faire des incartades puisque cette soupe s'est tellement popularisée que on en trouve plein de versions.
Et en plus, il y a plein d'autres déclinaisons. Hein.
Exactement.
Vous pouvez nous donner peut-être quelques
Alors,
exemples.
Moi, j'aime bien l'été, là, avec les vacances qui vont bientôt arriver, faire un gazpacho de pastèque. Alors, c'est très simple.
C'est un dessert, du coup, plutôt, non, presque.
Non, parce que je mets du pain, toujours, que je fais ramollir avec de l'huile, du vinaigre, des oignons frais, j'ajoute ma pastèque, je mixe très très fortement aussi, et j'ajoute des dés de feta et de la menthe.
Oui, du coup, c'est une belle entrée fraîche, ouais, ou même un plat.
Et hein, d'ailleurs, il y avait des gens qui disaient, mais c'est bizarre, en fait, c'est une salade à boire.
C'est un peu ça. Moi, je connais des gens qui mettent même des fraises dans le gazpacho, en fait, qui mixent la tomate et la fraise, en fait.
Exactement, hein, du coup, puisque les deux sont des fruits, et c'est très très bon, ça aussi. Alors ça, c'est plus un dessert, Mélanie. En fait, on les mixe aussi très fortement. On peut ajouter de la menthe, un peu d'eau de fleur d'oranger, et on l'idée, c'est vraiment de servir cette soupe très froide. C'est vraiment le truc aussi, et parce que voilà, ça rafraîchit en plein été.
En plus, c'est léger, c'est bon pour la santé, tout ça, plein de vitamines.
Exactement.
Avec tous ces fruits et ces légumes.
C'est sans faute.
Vous l'aimez comment, vous, Vincent, le gazpacho?
Moi, j'ai essayé de le faire à l'extracteur de jus, c'est une bonne idée ou pas? Parce que c'est compliqué, je trouve. Hein.
Non.
Mais sinon, je le préfère la recette classique.
Ouais. Parce que, comme disait Mélanie, en fait, Julien, ce qui est sympa dans le gazpacho, c'est quand même
qu'il y a
de la consistance.
Épaisseur,
vous voyez dans la soupe, d'ailleurs, que Rebecca nous a. C'est quand même. Il y a quelque chose. Il y a la mâche, comme on dit.
Avec les tomates, on arrive quand même. Mais effectivement, il y a le problème de la peau après.
L'extracteur, vous enlevez trop de choses, en fait, je trouve.
Bon, on choisit. En tout cas, celle qui nous convient.
Et puis on se régale, parce que
régalez-vous en ce moment
façons,
avec
les
températures, c'est idéal. Merci beaucoup Sophie pour cette chronique très gourmande, comme à chaque fois. Maintenant, on va aller déjeuner du coup, parce que vous nous avez bien ouvert l'appétit. Et puis de toute façon, cette émission est terminée. J'espère que vous avez passé une heure agréable avec nous sur Europe 1. Bien fait pour vous, sera de retour demain dès 11h avec Julia Vignali, bien sûr. On continuera dans la gourmandise. Demain, on y mêlera un peu de santé. Est-ce que vous mangez les bons aliments quand il fait chaud en été? On va voir ensemble ce qu'il faut mettre dans nos assiettes quand le thermomètre grimpe, hein, du gazpacho bien sûr, mais il y a peut-être d'autres choses pour rester hydraté et en bonne santé. On fera le point avec nos experts.